Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Je suis partie à la rencontre d'un photographe toulousain, Arnaud Brignon. Il nous explique comment il a fait évoluer son projet US, ainsi que sa démarche originale. Partir en famille aux US, photographier en argentique en utilisant de vieilles pellicules, ainsi que comment il a fait pour faire sa sélection de photos pour une exposition, ainsi que son livre, parmi les centaines de clichés pris pendant les voyages.
Alors, je suis Arnaud Brignon, je suis originaire de Toulouse et je suis photographe, membre d'une agence qui s'appelle Signature. Et donc là, j'expose actuellement à la Maison de la Photographie de Brest.
Donc tu exposes, quel est le titre de ton exposition ?
Mon expo s'appelle US, qui s'écrit US. Donc il y a ce jeu de mots, ce double sens entre le US de United States, des USA, et le US qui veut dire nous en anglais. Et c'est vraiment le cœur de mon projet. Puisque c'est le projet part d'un road trip aux États-Unis réalisé en famille. Donc du coup, ce US vient vraiment parler de cette dimension intime et familiale. Donc le projet en fait initial n'était pas un projet pensé en famille au départ. C'est un peu imposé par la suite. Le projet initial pour moi, c'était un projet. Trump venait d'être élu et j'avais cette intégration de cette population finalement qui avait élu Trump, qui était majoritairement une population blanche, donc une population issue des Européens, puisque c'est les colons aux États-Unis. Et du coup, j'étais parti dans l'idée de rencontrer ces gens finalement. Et j'avais une manière symbolique de parler de cet héritage européen aux États-Unis, c'était de me rendre dans des villes qui ont le même nom que les capitales européennes, à savoir Paris au Texas, Madrid au Nouveau-Mexique, Londres dans l'Ohio. Donc en fait, j'ai parcouru les 12 villes qui ont été les 12 capitales de l'Union européenne initiale, et dans un mouvement un peu symbolique, sachant que ces villes, contrairement aux villes européennes, sont pour la plupart, à part Athènes, qui est une grosse ville, sont toutes des petites villes. Donc Madrid, c'est 300 habitants, au fond d'un canyon du Nouveau-Mexique. Copenhague, c'est 800 habitants. Amsterdam, c'est plus gros, ça va être 4000 ou 5000 habitants, mais on reste sur des dimensions de toutes petites villes. Et c'est des villes de l'intérieur des États-Unis, loin des très grandes villes comme New York, San Francisco, plutôt toutes sur le côté est des États-Unis, et des villes très blanches, finalement, dans leur population. Donc ça allait bien avec à la fois dans la symbolique et à la fois dans ma recherche. Et dans cette question de l'héritage, finalement, je me suis dit, mais en partant, les États-Unis, c'est aussi un héritage iconographique et culturel important. On est tous nourris de la culture américaine, par le cinéma, par la littérature, par la musique, par la photographie, par la peinture. Et j'avais aussi envie d'interroger finalement cette dimension de l'héritage iconographique, plus iconographique dans mon cas puisque je suis photographe, mais en fait des influences que j'ai eues en tant que photographe de gens comme Wim Wenders. On parlait de Paris Texas, mais par exemple de Wim Wenders ou de Robert Frank ou de Dolores Mara. Et en fait finalement un lieu, les États-Unis, où quand on s'y rend, on a souvent l'impression d'un déjà vu. On se demande finalement si ce qu'on voit autour de nous, c'est quelque chose, même sans jamais y avoir été, il y a quelque chose qu'on peut avoir appréhendé à travers justement toute cette culture qui est diffusée partout dans le monde. Et donc dans mes photos, il y a aussi cette idée finalement que quand on fait une photo, elle n'est pas de nulle part, elle naît de quelque part, elle naît d'une influence, elle naît d'un contexte. Et du coup, il y a certaines de mes photos seront aussi des références à un western de Sergio Leone, des références à un tableau de Turner, de Hopper, des références à une photo de Robert Frank ou de Dolores Mara. Et pour moi, finalement, c'était aussi important d'avoir cette dimension de l'héritage iconographique. Donc ça, c'était vraiment le projet initial. Et donc j'ai eu une bourse pour réaliser ce projet. Et j'ai annoncé à ma famille, du coup, que j'allais partir plusieurs semaines pour ce projet. Et ma compagne m'a rappelé de façon assez efficace que, puisque j'étais dans la question de l'héritage, il serait bon que j'interroge aussi mon propre héritage intime et peut-être aussi l'héritage un peu plus général de l'égalité homme-femme. Et du coup, elle me dit, en fait, tu n'es jamais là, tu pars tout le temps et tu reproduis un peu ce que ton père faisait aussi, puisque mon père partait aux USA, travailler, sans jamais nous emmener. Ce que mon père, mais ce que beaucoup d'hommes faisaient finalement, c'est souvent les hommes qui partent et les femmes qui restent. Et du coup, elle me dit, tu es dans cette reproduction, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on a fait ce choix, pour ce voyage, de partir ensemble, c'est-à-dire avec ma compagne et avec ma fille, et de faire ces 3 mois finalement de voyage ensemble. Et c'est comme ça que ce titre là, US, est devenu US. Finalement, on a basculé d'un projet uniquement territorial à un projet finalement qui est devenu beaucoup plus intime, quoi. Le territoire est devenu le nôtre, notre territoire. Alors évidemment, partir comme ça, alors que j'étais parti quand même dans une posture assez classique, de photographe voyageur, d'aller à la rencontre de ces villes américaines de l'intérieur, tout d'un coup de se retrouver à 3 en famille, ça bouscule tout. Et je pense que c'est assez heureux finalement, quoi. Ça n'a pas été simple à vivre sur le moment, mais je pense que c'est aussi ça qui m'a finalement permis de sortir des stéréotypes, permis aussi d'avoir une réflexion autre et une dimension autre que celle qui aurait été juste de photographier ces villes, qui finalement ont été peut-être redondantes avec des choses qui ont déjà été faites en photographie. Et là, en fait, cette dimension intime, je pense qu'elle amène justement une nouvelle lecture par rapport à cette histoire. Et donc voilà, donc on a évidemment, ça a modifié aussi la modalité du voyage, parce que quand on partait en famille, ben on est parti que l'été pour les vacances scolaires, pour avoir ces temps en fait de voyage. Donc c'est un voyage qui a été coupé en 3 parties. Un premier mois en 2018, puis après, il y a eu le Covid, la fermeture des frontières, et la suite en 2022, en fait. Donc voilà, donc on est parti 3 fois comme ça en famille.
Et comment ta fille a vécu les voyages, le fait d'être photographiée? On la voit dans les photos, du coup?
Alors, encore une fois, cette histoire familiale, elle est venue presque a posteriori, parce que sur le premier voyage, j'étais un peu encore arc-bouté à ma posture du photographe voyageur, et je me disais, mais moi, je veux faire mon projet, donc je laissais les filles... on coupait un peu les journées, on faisait des emplois du temps comme ça, où je disais, mais moi je pars 6 heures photographier, puis on se retrouve le soir, etc. Bon, évidemment, quand on est dans un mode de photographie, on photographie tout le temps, on pense qu'on voit tout à travers le prisme de l'appareil, et donc je les ai photographiés aussi. Mais en fait, c'était pas dans un but de le... Je pensais vraiment réaliser mon travail un peu séparément. Et puis, en regardant les photos après, il est apparu évident que ce qui faisait l'intérêt de ce travail, c'était justement qu'elle soit dedans. Et que tout soit imbriqué. Donc c'est sûr que pour les 2 voyages suivants, là j'avais un peu conscience que j'allais mélanger. Voilà, la question de l'intime et de la famille, c'est quelque chose qui, en photographie, en tout cas que je questionne depuis un petit bout de temps, et depuis longtemps, je photographie aussi ma famille, je nous photographie nous. Donc en fait, elle n'était pas non plus complètement surprise par le fait que je la photographie. Après, c'est vrai que quand j'ai montré l'exposition, maintenant elle a 15 ans, c'est un âge où c'est pas forcément... évident d'être vu, et je l'entends tout à fait. Et donc du coup, on a discuté ensemble des images que j'allais montrer, pourquoi, comment. Il y a une image que j'aime beaucoup qui fait la couverture du livre, et justement à un moment je voulais qu'elle soit à l'affiche, parce que je trouvais qu'elle résumait très bien notre projet, et elle m'a dit non, c'est pas possible. Et donc du coup, voilà, il faut aussi entendre des choses comme ça. Mais aujourd'hui, finalement, je continue à nous photographier dans la famille, c'est juste que je ne montre plus les photos. On a un pacte comme ça avec ma fille en disant, je continue à nous photographier, mais on verra plus tard pour montrer les photos. Donc, mais oui, c'est sûr qu'en se photographiant notre intimité, il y a ces questionnements qui apparaissent, même si en fait, ce que je montre, ce n'est pas notre intimité. C'est comme un romancier qui écrirait autour de son intimité. L'idée, c'est de montrer l'intimité que j'ai envie de montrer, mais ce qui est une intimité complètement romancée, en fait.
Alors, tu travailles en argentique, en numérique?
Alors, moi, je travaille exclusivement en argentique. Peut-être qu'il y a un peu de nostalgie, je ne sais pas, dans cette idée. Mais en fait, ce qui m'intéresse... Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans l'argentique. En fait, il y a déjà l'idée qu'il y a beaucoup de choses qui existent encore. Et j'aime bien finalement me dire qu'on n'a pas encore épuisé toutes les possibilités des choses qu'on a créées. Et donc, moi, j'aime bien utiliser ces appareils qui sont un peu mis à l'abandon, donc que j'ai récupérés dans des vide-greniers, que j'ai récupérés à droite, à gauche. Et pareil pour les pellicules, en fait, il y a encore plein de pellicules qui sont en circulation. Bon, il y a des pellicules neuves qui existent, on reproduit des pellicules. Mais en fait, moi, j'aime bien utiliser aussi les pellicules qui traînent au fond d'un tiroir. Et voilà, parce que, en fait, le temps, en fait, leur donne aussi, que ce soit aux appareils, aux pellicules, en fait, le temps a un effet sur ces... Et du coup, je ne les utilise pas comme on les utilisait au moment où elles ont été produites. Mais comme elles sont aujourd'hui un peu défectueuses, il va y avoir de la lumière qui va rentrer, il va y avoir des pellicules qui vont être un peu abîmées, qui vont amener du coup des teintes qui n'étaient pas les teintes initiales. Mais en fait, moi, ça m'intéresse parce qu'en fait, ça va créer des couleurs un peu à la manière d'un peintre. En fait, ça agrandit un peu la palette. Et moi, mon idée de la photographie, ce n'est pas de reproduire le réel, mais plutôt de reproduire les émotions qu'on ressent dans le réel, quelque chose comme ça, quoi. Donc en fait, mes photographies, elles sont plus de l'ordre de l'émotion, et elles vont presque parfois tendre vers la peinture, et du coup, y a une matière argentique, que ce soit à travers le grain ou à travers les couleurs, qui est vraiment un jeu de palette, ou même en noir et blanc, ou avoir on va jouer avec des fluides de lumière qui vont... Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est finalement la perte de contrôle. Dans l'argentique, on va mettre là, par exemple, je suis parti pendant un mois et je ne développe rien sur place. Donc, ça se trouve, je rentre, je peux tout perdre. Je peux ne rien avoir parce que je ne me suis pas rendu compte que l'appareil ne marchait pas, ce qui arrive par moment. J'utilise plusieurs appareils quand même. J'ai un petit peu pour sécuriser un peu. Mais ça peut arriver, ce genre de choses. Et donc, finalement... Il y a cette idée aussi qu'on ne voit pas les images et qu'on ne les voit pas non plus tout de suite. Et ça, c'est très important parce qu'en numérique, on fait énormément d'images. On a un contrôle permanent sur l'image qu'on prend pour vérifier qu'elle correspond bien à l'intention sur laquelle on a voulu prendre. Mais du coup, on ne se laisse plus surprendre par des images qu'on aurait prises et qui ne correspondent pas à l'intention initiale, mais qui sont des fois meilleures que celles qu'on aurait pensées. Et puis, le fait qu'elles existent avec une matérialité, pour moi, ça leur donne quand même une valeur plus importante. Moi, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que, par exemple, même dans la photographie de famille, quand on va faire une image, qu'on la tire, qu'on la met dans une photo, elle va réellement exister dans une mémoire un peu collective, individuelle, alors que quand on la fait juste 5 minutes au téléphone pour l'envoyer par WhatsApp, elle existe pendant ces 5 minutes et après elle n'existe plus, elle est perdue dans un flux d'images numériques. Et cette question d'une image qui existe, pour moi, est importante. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, ouais, je travaille en argentique.
C'est vrai que tu as des surprises dans ton exposition. Tu as une sorte de montage qu'on voit au fond, où tu as une superposition de photos. Tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as dit, celui qui a développé les photos?
Oui, alors là, en effet, on a l'impression que c'est un montage, et ce n'est pas du tout un montage, justement. En fait, c'est un appareil que j'avais posé sur l'avant de la voiture, et pour prendre des photos de la route. Je prenais des photos de la route avec cet appareil. Et en fait, quand j'ai amené au labo pour développer, ils ont sorti les pellicules, et en fait, ils m'ont dit, il y a un problème, en fait, tout se chevauche, en fait, tout était chevauché, et en plus, tout était flou, et donc, ils m'ont dit, on va pas te couper le fil, parce que je sais pas où il faut le couper, etc. Et donc, ils m'ont laissé les films comme ça, entiers. Et pendant longtemps, j'ai laissé ces films de côté en me disant, typiquement, c'est des films qui vont me servir à rien, tout est raté. Et c'est au moment de l'exposition où je cherchais un petit peu, parce qu'une exposition, c'est aussi de raconter une histoire, c'est une façon de raconter une histoire. Et il fallait que les gens comprennent dans cette histoire qu'il y avait cette route permanente, etc. Et en fait, j'ai repensé à ces films, et je me suis dit, en fait, ces films, ils sont restés intacts, entiers. Et finalement, en faisant un tirage en photo, on parle de planche contact quand on tirait par contact une pellicule entière pour la voir dans son entièreté d'un coup. Mais les films étaient coupés. Et là, finalement, j'ai fait le même système en tirant par contact, mais le film entier. Et du coup, ça fait des grandes lignes de route. Et pour moi, ça raconte justement, ça emmène. L'idée, c'est d'emmener le visiteur dans ce parcours avec nous, et de l'emmener dans notre voiture, et de l'emmener dans cette route.
Combien de photos as-tu fait durant ton voyage? Et comment as-tu fait ta sélection ensuite?
Alors, je ne saurais pas dire combien de photos j'ai fait, mais je pense qu'on n'est pas loin de 150 pellicules. Bon, après, les pellicules, c'est des fois 24 poses, des fois 36 poses, mais bon, donc il faudrait faire un compte, etc. Mais on ne doit pas être loin de 150 pellicules. Et à la fin, il y a, je sais pas, 60 photos, quoi. Donc, en effet, c'est assez radical comme choix. C'est ce qu'on appelle en photo l'editing, la question de la sélection. Pour moi, c'est presque l'acte le plus important du photographe. La prise de vue, c'est un acte important, mais c'est un acte un peu instinctif qui part un peu aussi dans tous les sens. Donc on va faire plein de bonnes photos, mais des fois qui, collées les unes aux autres, racontent pas grand-chose. Parce qu'un editing, c'est pas juste choisir les plus belles photos. En plus, la question de la beauté, elle est tout à fait subjective. C'est pas choisir les plus belles photos, c'est choisir aussi un ensemble de photos qui vont venir raconter une histoire. C'est comme dans le texte, on peut avoir un super vers en alexandrin et une super punchline dans un morceau de rap. Les deux sont très belles, mais elles ne vont pas forcément ensemble. Et ben c'est pareil en photographie. Et donc, il faut arriver à trouver aussi ces images qui vont ensemble. Et ben après, ça, c'est beaucoup de temps à regarder les images, à faire aussi le deuil de certaines images qu'on trouve belles, justement, mais on les trouve tellement belles, des fois, qu'on a envie de les mettre quand même. Mais alors qu'elle raconte finalement quelque chose de différent, qu'elle va emmener le spectateur ailleurs. Il y a aussi le deuil d'images qu'on a, en fait, qu'on trouve bien uniquement parce qu'on se souvient du moment. Et en fait, il faut aussi arriver à prendre une distance, à se dire, mais finalement, quelqu'un qui arrive et qui regarde l'image, lui, il n'a pas tout ce background, il n'a pas toute cette histoire que j'ai moi, de qu'est-ce qu'il va voir dans cette image et qu'est-ce qu'il va imaginer. Et en plus, encore une fois, moi, mes images, le but, c'est pas de donner une dimension du réel, mais de créer des imaginaires. C'est que la personne, elle se projette dans une vision des États-Unis, qui pourrait, dans une vision un peu magique, dans une vision de la famille. Et donc, en fait, je cherche des images qui vont lui procurer aussi des sensations différentes, un petit peu, et qui, mais en même temps, ne trahissent pas non plus mon propos de cette traversée d'un pays un peu imaginaire, à la fois angoissant et fantastique. Et cette dimension de l'intime. Donc il faut qu'on arrive à retrouver tout ça. Donc c'est pour ça, pour moi, la question de l'editing, c'est vraiment tout l'enjeu du photographe. C'est avec toute cette matière première, comment on raconte une histoire. Et c'est à la fois éreintant et passionnant. Et ça, j'ai passé beaucoup de temps, du coup, à regarder, re-regarder. Je ne sais pas s'il y a une recette miracle pour ça. Et après, il y a aussi, une fois qu'on a choisi ces photos, lesquelles on va mettre dans un livre, dans lesquelles on va mettre dans l'exposition, lesquelles, parce qu'il y a un corpus un peu plus grand d'images, on va dire que c'est pas tout à fait les mêmes qui sont dans le livre et dans l'exposition, à peu près. Hein. Mais on va dire qu'il y a 50 images qui sont dans tous les cas, mais tout ça sur un corpus de 80 images. Et après, lesquelles on va choisir de tirer, quel format, pourquoi tel format, qu'est-ce qu'il va raconter. Ça, c'est plein de questions que tout photographe se pose, je pense. Et dont les réponses viennent avec le temps à rechercher. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi qui fait l'écriture d'un photographe, c'est le choix des images qu'il choisit de montrer. Bien sûr qu'il y a la façon de prendre les photos, mais il y a surtout qu'est-ce qu'on choisit de montrer.
Est-ce que tu choisis de les légender ou pas tes photos?
Alors non, je ne légende pas mes photos. Et c'est complètement volontaire. Encore une fois, c'est... Si ça avait été du reportage, dans un reportage, c'est extrêmement important de légender les photos pour que justement le spectateur ne se trompe pas de direction en regardant une image. Il ne faut pas qu'il s'approche, parce qu'en fait, la photo, ce n'est pas le réel. On ponctionne une part du réel, mais par le cadrage, on en élimine beaucoup. Donc en fait, on fait un choix assez, en tant que photographe, on fait un choix dans le réel. Donc quand on fait un reportage, il faut mettre une légende pour que justement, il n'y ait pas d'erreur possible sur la signification de la photo qu'on voit. Mais au contraire, moi, je suis plus dans un format littéraire, on va dire. Et du coup, j'ai envie que la personne qui soit en face, elle puisse avoir ses propres projections. Donc après, il y a un texte qui accompagne l'exposition, qui est un texte général et qui va venir, en fait, raconter l'histoire. Alors c'est un texte qui est soit sous forme écrite dans le livre, soit oral dans l'exposition qui est enregistré, qui passe, qui est lu, mais dont on peut se saisir ou pas. On peut très bien regarder l'exposition sans regarder le texte et on peut s'en faire sa propre histoire. Moi, ça ne me dérange pas que les gens ils s'emparent de mes photos pour se raconter aussi leurs histoires, comme un tableau, comme voilà. Donc du coup, il y a aussi cette dimension-là, quoi. Et après, il y a quand même ce texte qui vient un peu recontextualiser, re-raconter cette histoire qu'on se raconte là aujourd'hui. Elle n'est pas au mot par mot. Le but, c'est que les gens aient une sensation globale. Et je pense que quand même, quand ils rentrent dans l'exposition, finalement, par justement, je parlais de référence, ils regardent, en fait, et même sans le texte, ils vont savoir qu'ils sont dus à ça, ils vont savoir qu'ils sont dans un road trip, ils vont comprendre qu'il y a une... qu'on est dans une Amérique plutôt intérieure, ils vont voir des personnages qui reviennent, de ma fille, de ma femme, ils vont se dire, bon bah, il y a un lien avec ces personnages, on sait pas, même si on ne sait pas qui c'est, on voit bien qu'il y a un lien un peu intime. Donc, je pense qu'en fait, toutes ces informations-là, elles passent déjà visuellement. Après, les choses plus subtiles, etc., pas forcément, mais ça, c'est pas grave. On peut se raconter plein d'histoires, etc. Et puis, encore une fois, celui qui a envie de comprendre plus, il va chercher le texte.
Donc, tu es allé aussi à la rencontre des, entre guillemets, des autochtones. Et est-ce que ça a été facile de les approcher ou pas ?
Alors oui, sur les photos, il n'y a pas que nous. En effet, il y a d'autres gens. On a rencontré des gens aux USA. Les Américains sont des gens qui ont un premier abord, j'ai pris une grande généralité en disant les Américains, mais si on va dire globalement aux États-Unis, les gens ont une curiosité de l'autre, un premier accueil très facile. Mais par contre, c'est un accueil assez superficiel, quoi. On se dit bonjour, etc. Rapidement, on peut parler, échanger quelques mots avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et puis ça s'arrête là. Donc par contre, une dimension, une rencontre un peu plus importante et plus compliquée. Et puis, les USA, c'est un pays où, en tout cas, dans cette Amérique, dans les grandes villes, je pense que c'est un petit peu différent, mais dans l'Amérique où on a été, c'est un pays très enfermé, chez soi, en fait. C'est des grandes propriétés, fermées, les gens, ils passent de leur propriété, qui est, en plus, leur maison, souvent climatisée, donc ils sont peu dehors, pour rentrer dans une voiture climatisée, pour aller... Et finalement... Il y a peu de lieux de vie sociale, de lien social. Donc, à part l'église, peut-être, les églises ont cette fonction-là, un peu de lien social. Mais sinon, en fait, il y a peu de lieux de rencontre informels, comme il y a des bars, mais c'est beaucoup moins utilisé que, finalement, dans cette dimension que chez nous. Donc, c'est vrai que rencontrer les habitants, ça n'a pas été une évidence. Par exemple, on a beaucoup voyagé dans des Airbnb. Et qui était des Airbnb qui étaient sur la propriété des habitants. Et deux fois ou trois fois, on a demandé à nos logeurs s'ils étaient là pour faire l'essence, pour discuter. Et donc on a discuté avec eux. Et ils étaient très surpris dans notre démarche. Ils nous ont dit, mais en fait, les gens, ils habitent chez nous, mais ils nous envoient des SMS, ils ne nous parlent pas. Et alors nous, à l'inverse, on était très surpris de ça, de pouvoir habiter chez quelqu'un et de même pas aller le dire bonjour. Voilà, donc du coup... je pense qu'en fait, cette question de la rencontre et la question du lien social, elle est en effet vécue très différente aux États-Unis et en Europe. Ça, c'est une grosse différence, je pense, entre nos pays qui se ressemblent. Sinon, par ailleurs, il y a des points de ressemblance. Bon, moi, ça m'inquiète un peu parce qu'en fait, on dit souvent quand même qu'aux États-Unis, ils ont 10 ans d'avance sur nous et qu'on voit aussi en France un certain délitement du lien social. Donc, c'est vrai que cette question d'aller vers l'autre, elle m'inquiète un peu quand je vois la dimension américaine, comment ça se passe et comment il y a... aussi des entre-soi, ou comment les gens ne se parlent plus qu'entre groupes de gens convaincus. Ça, on l'a aussi ressenti en parlant avec les gens. Donc voilà, ça a été à la fois enrichissant les rencontres qu'on a pu faire, mais en effet, pas si nombreuses que ça. Elles n'ont pas été si nombreuses que ça.
Tu fais souvent des résidences. Est-ce que tu as, en dehors du livre que donc, tu as publié, est-ce que tu as d'autres projets, des commandes, des expos, des résidences en perspective ?
Alors oui, c'est vrai que moi, je fais beaucoup de résidences parce que je suis quand même venu à la photographie par cette question du voyage. Et la résidence, c'est un peu une façon de... Pour moi, c'est une façon de partir en voyage qui fait sens parce que du coup, on se retrouve à aller voyager à des endroits qu'on n'a pas forcément choisis parce que quand on appelait en résidence, finalement, c'est rarement des territoires sur lesquels on aurait choisi d'aller comme ça initialement. Du coup, on est amené à partir aussi sur des endroits... cette question de créer du hasard dans la destination, elle est un peu importante pour moi, même dans ce projet, où pour le coup, là, j'ai choisi de partir aux États-Unis. Le fait de choisir ces villes dont je ne savais rien, si ce n'est leur nom, ça m'a obligé finalement à aller découvrir les États-Unis un peu par hasard et pas d'aller, Je crois que si j'avais choisi, j'aurais été à Yosemite, j'aurais été dans les grands parcs, sûrement à New York, à San Francisco. Et en fait, j'aurais fait ce parcours que font beaucoup de gens. Et là, du coup, comment est-ce qu'on sort de ça? Bah, finalement, en étant un peu obligé de travailler par le travail. Quoi. Et les résidences, elles amènent cette obligation, en fait, à aller quelque part et cette façon de faire. Et c'est vrai que là, je viens de terminer une résidence à Cherbourg. La demande, en fait, de la ville de Cherbourg qui menait cette résidence, c'était de travailler sur partir du quartier qui s'appelle Charcot-Spanel, qui est un quartier, une petite cité de la ville, en renouvellement actuellement, comme il en existe dans toutes les villes. Et en fait, plutôt que de rester dans le quartier, moi, l'idée, ça a été de dire, je vais partir avec les habitants le matin au travail, en voiture, ils m'emmenaient, et après, je rentrais à pied, sachant qu'il me fallait des fois 3 jours pour rentrer à pied. C'était à la fois réinterroger ce temps de transport et ces voyages quotidiens qu'on fait, mais qu'on oublie parce qu'on a optimisé le temps de transport. Et c'était aussi de dire qu'on assimile souvent la cité à un lieu fermé et clos. On a l'impression que les habitants ils vivent que dans la cité. Et, voilà. Et en fait, c'est de dire, mais en fait, tous ces paysages un peu magiques, ils existent aussi dans l'imaginaire des habitants de cette cité. Et ce territoire autour existe aussi.
Nous étions en compagnie du photographe André Brignon et c'était Ribine sur Transistor.